autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour remettre en question, pendant toute cette semaine de rediffusion estivale, pas mal d'idées reçues sur notre préhistoire. À partir des bouleversantes découvertes de nos invités, aujourd'hui, le paléoanthropologue Antoine Balzo, du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui vient de prouver fossile à l'appui, après une fascinante enquête, que Néandertal enterrait ses morts, il y a près de 41 000 ans, bien loin de l'image de brute épaisse qui lui colle encore à la peau. Jusqu'où nous entraîneront nos six proches cousins néandertaliens, mais aussi leurs contemporains en Afrique, les premiers hommes modernes qui ont émergé à l'époque sur le continent africain. Qui était-il ? Comment vivait-il ? La paléoanthropologue Isabelle Crèvecœur de l'Université de Bordeaux, une des rares à travailler sur la diversité passée des hommes modernes en Afrique, avait elle aussi partagé avec nous ses pistes de recherches inédites. C'était le 12 janvier dernier. Nous vous proposons de réécouter cet entretien croisé autour de la question « Quelles nouvelles de Néandertal ?» et quid de ses contemporains en Afrique ? Bienvenue pour remonter le temps sur les traces de tous nos ancêtres.
Il y a 400 000 ans, cet homme a régné en maître sur l'Europe et l'Asie. Chasseur d'exception, il a vaincu les animaux les plus sauvages de la préhistoire. Adapté aux environnements les plus hostiles, il a laissé son empreinte des côtes espagnoles aux montagnes de la Sibérie. On l'appelle l'homme de Néandertal. Les derniers signes de vie de ce chasseur-collecteur hors du commun datent de 40 000 ans. Que s'est-il passé ? Depuis 150 ans, les scientifiques du monde entier cherchent à percer ce mystère. Inlassablement, ils fouillent la Terre pour retracer le fil de son histoire.
Un fil et une histoire qui n'en finit pas de s'écrire et de se réécrire depuis la diffusion de ce documentaire qui a tué Néandertal sur France 5. Vous avez fait une nouvelle découverte de taille, Antoine Balzo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous pour partager donc l'enquête incroyable que vous avez menée avec une équipe interdisciplinaire sur le terrain et dans les collections du muséum. Enquête qui vous a permis de démontrer scientifiquement que Néandertal enterrait ses morts. Un enfant néandertalien a bien été inhumé par les siens il y a plus de 41 000 ans. C'est désormais prouvé scientifiquement. Votre enquête, ou plutôt votre sorte de chasse au trésor, a fait l'objet d'une publication dans Scientific Reports le 9 décembre 2020. Et l'histoire de cette démonstration imparable vaut vraiment le détour. Racontez-nous, Antoine Balzo, comment le paléoanthropologue que vous êtes, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, également président de la Société d'Anthropologie de Paris, et spécialiste de l'étude de l'évolution des hommes préhistoriques grâce aux méthodes d'imagerie appliquées aux fossiles, a pu faire cette découverte sur le site de la Ferracie en Dordogne. Mais pas seulement, hein, d'abord dans les collections, dans les tiroirs du muséum et presque par hasard.
Oui, c'est en fait un heureux concours de circonstances. C'est vrai que le point de départ, c'est l'étude des fossiles humains. Et en l'occurrence, on a la chance au muséum d'avoir les collections humaines de la Ferracie. Il y a plusieurs squelettes qui ont été découverts dans ce gisement-là, dont celui d'un enfant. Et là, on était en train de retravailler avec un collègue espagnol, Asier Gomez, sur ce squelette. Le but, c'était de le redétailler, de mieux le comprendre.
Un squelette qui avait été exhumé il y a 50 ans.
Il y a 50 ans, oui. Et on avait la caisse qui contenait les objets associés à ce fossile. Et parmi ces objets-là, il y avait une dent humaine d'adulte, complètement isolée, avec juste un numéro sur le tube, donc assez mystérieuse. Partie de ce constat-là, on a voulu essayer d'avoir quelques informations sur cette dent. Donc on est allé à Saint-Germain-en-Laye pour voir les collections qui correspondent aux fouilles de cette époque-là. On partait un petit peu à l'inconnu, on ne savait pas exactement ce qu'on allait trouver. Mais finalement, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a des collections très riches là-bas, de plein de gisements différents, de plein de fouilles différentes, ça on le savait déjà. Mais là, on a eu le bonheur de trouver finalement tous les petits éléments qui, mis bout à bout, ont permis de résoudre plein d'énigmes. On a trouvé assez vite d'où venait la dent, simplement parce qu'on a ouvert le premier. On avait des dizaines de cahiers devant nous avec les informations des fouilles.
De paléanthropologues du passé qui avaient fouillé.
Et bah de ces 50 fouilles sur le site de la Ferrassie, avec plein d'informations, numérotées de 1 à 63, les cahiers. Bah j'ai commencé par le cahier 1, c'était logique. Et dès le cahier 1, au bout de quelques pages, j'avais identifié ma dent, qui avait été vue à l'époque, mais qui était passée inaperçue au moment où ils l'avaient mise dans cette caisse. Personne ne l'avait réétudiée. Et puis le coup de chance, c'est que en continuant les pages de ce cahier 1, j'ai vu que ce fossile, la Ferrassie 8, le squelette d'enfant, venait du même endroit. Ça, c'était intéressant parce qu'on n'était pas certain. Il n'y avait pas une exploitation très forte de ces informations-là. Et là, on trouvait l'endroit. Donc, on a continué à chercher. On a été regarder les caisses. Là aussi, il y avait des dizaines de caisses qui venaient des fouilles de la Ferrassie. Au final, on les a toutes regardées. Mais puisque là, on avait cet indice de carré 1 égale intérêt puisqu'il y avait l'enfant, on a ouvert cette première caisse. On a même trouvé un sachet avec écrit M dessus. M pour moustérien, la couche où avait été trouvé l'enfant. Ce qui était en partie surprenant parce que justement les cahiers de fouilles disaient qu'en gros il n'y avait rien dans cette zone-là. On a ouvert ce premier sachet et en fait il s'est passé ce qui n'arrive jamais d'habitude quand on fait des recherches. Quand on cherche des fossiles humains, on passe des années sur un site, on a peu de chances de trouver des choses. Et là le hasard a voulu que le fouilleur qui était sur ce carré-là est passé dans une poche d'objets et... Il devait être occupé à autre chose, il avait juste pour mission de nettoyer, il a nettoyé, tout mis dans le sachet, et nous en vidant ce sachet, on s'est rendu compte qu'on avait 47 nouveaux restes humains, une partie du cou et de la base du crâne de notre petit enfant, qui était passé inaperçu. Donc d'un seul coup, on retrouvait près d'une cinquantaine de nouveaux fossiles humains qui complétaient énormément notre squelette. Et c'est pour ça qu'on a continué après tout un ensemble d'études, parce que là, forcément, cette découverte nous disait ben, notre squelette, il est bien plus complet qu'on le pensait.
Donc un squelette d'enfant découvert dans une couche, et je vous le suis bien, avec d'autres objets qui datent d'une époque où il n'y avait pas de néandertalien, c'est ça ?
En fait, ce qui était mystérieux, c'est que le cahier de fouilles, dès le retour au laboratoire le lendemain dans mon bureau, j'ai regardé toutes les informations qu'on avait. Et puis, quand on fait des fouilles, on coordonne les objets. On enregistre à quel endroit ils se positionnent dans l'espace. Donc, j'ai mis comme ça tous les objets associés à l'enfant. Et quand j'ai mis en 3D cette modélisation des objets associés à l'enfant, eh bien, ça volait au milieu de rien. J'avais des informations pour les couches au-dessus, des niveaux archéologiques avec plein d'objets, tous bien horizontaux, les uns au-dessus des autres, avec des distinctions de couches notées dans les cahiers, et puis du vide, et puis une poche avec les restes d'enfants. Et ça, c'est étonnant. Ça a peu de chances d'arriver par soi-même. Et c'est ce qui a lancé, en fait, l'ensemble des recherches qu'on a pu faire ensuite.
Et qui ont démontré que les Néandertaliens avaient creusé très profondément et enterré cet enfant.
Et voilà, en effet, ce vide autour de lui, bah, la géologie et les fouilles archéologiques nous ont montré que c'est parce que l'ensemble autour était stérile. Et en faisant des dates, on s'est rendu compte que la couche tout autour avait 60 000 ans, alors que l'enfant lui-même n'avait que 41 000 ans.
Et donc, il avait été enterré de manière volontaire par les Néandertaliens. Donc, Néandertal enterré, c'est mort. On en doutait, là maintenant c'est fini, plus personne ne peut en douter, c'est certain. Il y a plus de 40 000 ans en Europe. Et pendant ce temps-là, sur le continent africain, notre berceau à tous, un berceau à roulettes, puisque toutes les différentes espèces d'hommes qui ont existé sur Terre sont issues d'Afrique, en sont partis, mais pas tous. Alors pendant ce temps-là, justement en Afrique, qui étaient les contemporains de Néandertal ? On ne sait pas grand-chose sur ces hommes modernes africains. Heureusement, nous sommes en ligne en direct avec une des rares paléontologues qui travaille sur les hommes modernes africains et sur la diversité passée. Bonjour Isabelle Crèvecœur.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis votre bureau, votre laboratoire à l'Université de Bordeaux pour partager ces recherches sur la diversité passée des hommes modernes en Afrique. Alors pourquoi est-ce qu'on sait si peu de choses d'eux ? Finalement, on commence à savoir de plus en plus de choses sur Néandertal, sur d'autres espèces d'hommes. Mais qu'est-ce qui se passait au même moment en Afrique ? Il y avait les premiers Homo sapiens.
Oui, c'est ça. Et même, il y avait plein d'Homo sapiens en Afrique, hein, puisqu'ils sont apparus certainement il y a plus de 300 000 ans sur ce continent. Et ce qu'on sait, c'est en fait assez peu de choses. De deux soucis principaux. D'abord, un registre fossile qui est très, très éparse pour cette période-là pour le continent africain. Il y a des régions entières du continent africain qui n'ont pas livré de restes humains pour la période de contemporanéité avec les Néandertaliens.
Parce qu'ils n'ont pas été fouillés, ces sites, ou parce que ça ne se conserve pas vu le climat ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement des zones qui ne sont pas propices à la conservation, à la fossilisation, notamment tout ce qui est lié aux forêts équatoriales, hein, où les ossements se préservent mal. Et puis, des biais simplement historiques aussi, de fouilles, des zones qui ont été plus fouillées que d'autres, et certainement encore beaucoup de choses à découvrir sur ce continent. Et du coup, notre image, en fait, de ces populations d'Homo sapiens qui étaient présentes en Afrique pendant que Néandertal évoluait en Europe et en Asie, eh bien, elle est extrêmement floue. On a très, très peu de données, à la fois comportementales et biologiques.
Et pourquoi et comment vous y êtes intéressé, puisque finalement très peu de paléontologues travaillent sur cette question?
En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question en Afrique, sur la question peut-être de l'origine,
les premiers représentants.
Voilà, essayer de les identifier, les caractériser. Et puis, quelque part, il y a cette idée, une fois qu'on a Homo sapiens, on va regarder ailleurs, parce que ailleurs le registre fossile, il est plus important. En Europe, on a toutes ces données sur Néandertal qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et on part du principe que finalement, en Afrique, il n'a pas dû se passer grand-chose. Voilà, Homo sapiens était là, il est peut-être sorti quelques fois d'Afrique, mais avant sa dernière grande sortie et son peuplement du reste du monde, finalement, il n'a pas dû se passer grand-chose.
C'est pas votre avis, ça. Hein,
c'est pas exactement mon avis, et ce n'est plus l'avis de la plupart des gens maintenant, parce que grâce à la fois à l'exploitation des rares fossiles de cette période, donc en Afrique, et aussi aux données croissantes de paléogénétique et de génétique des populations actuelles,
qui montrent qu'il y a une énorme diversité génétique sur le continent africain. C'est ça, hein, que c'est là qu'il y a la plus grosse diversité génétique.
C'est ça. Ça, c'est une des premières choses. Maintenant, il y a un consensus sur le fait que les populations actuelles, elles viennent toutes d'Afrique. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Et à la fois, donc, la diversité actuelle est plus grande en Afrique. Ça, c'est une certitude. Et elle est la plus ancienne. Donc, ensuite, on a compris qu'il y avait eu des sorties d'Afrique avant la dernière grande migration, mais que c'est vraiment entre 80 et 50 000 ans qu'on va avoir la dernière sortie qui va amener les Homo sapiens à rencontrer les populations qui vivent alors en Europe et en Asie, qui sont ces populations de Néandertal et de Denisova. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre la diversité et les populations africaines de cette époque pour essayer d'interpréter ce qui s'est passé lors de cette rencontre, à la fois au niveau biologique et culturel.
On n'a pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises autour de la question quelle nouvelle de Néandertal et de ses contemporains en Afrique. J'ai envie de m'arrêter sur un autre bouleversement, une autre révolution préhistorique, finalement à la fois chronologique et géographique, qui a lieu en 2017. Nos ancêtres Homo sapiens, cette fois-ci, ont eux aussi pris un coup de vieux. C'est avec la fouille du site de Djebel Irhoud, au nord du continent africain, au Maroc, menée par le professeur Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck de Leipzig et du Collège de France, avec son homologue marocain le professeur Abdelwahed Benser de l'Institut National d'Archéologie et du Patrimoine de Rabat, qui ont exhumé et surtout daté le plus ancien Homo sapiens jamais découvert, le plus ancien représentant de notre espèce, âgé de 300 000 ans, soit 100 000 ans plus tôt que prévu, c'est pas rien, et à l'extrême nord du continent, ce qui bouleverse non seulement donc la chronologie de nos origines, mais aussi sa géographie panafricaine. Écoutez l'éclairage du professeur Jean-Jacques Hublin et vous réagirez ensuite, Antoine et Isabelle.
Alors, évidemment, l'âge, c'est très important pour les paléontologues. Et là, on recule énormément le point d'origine de notre espèce. Cette découverte, elle bouleverse un peu les idées que l'on a sur cette apparition, puisqu'effectivement, au lieu d'une apparition dans un espèce de jardin d'Éden est-africain, on se rend compte que probablement c'est l'ensemble du continent africain qui a été impliqué dans cette émergence. Mais je crois surtout ce qui est important au-delà du temps, parce qu'après tout, le public pourrait se dire, 200 000 ans, 300 000 ans, qu'est-ce que ça fait comme différence, ou même du lieu. Je crois que surtout ce qui est important, c'est ce que cela nous apprend sur le processus d'émergence de notre espèce. Et c'est peut-être de ce côté-là que pour un paléoanthropologue, il y a le plus de surprises, aussi le plus de débats. Hein.
Débat et surprise sur l'émergence de notre espèce Homo sapiens, même si on a changé de chronologie, on est remonté beaucoup plus loin dans le temps. Vous voulez réagir à ces propos de Jean-Jacques Hublin, Antoine Balzo?
Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'étude de ces fossiles-là ancre d'un point de vue anatomique Homo sapiens plus loin et ouvre aussi des réflexions sur la mise en place, l'apparition des caractères de notre espèce. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, les autres espèces qu'on connaît sur des aires géographiques un peu plus grandes et des chronologies plus longues, comme Néandertal ou Homo erectus, on voit au cours du temps une variation morphologique, une spécialisation peut-être des fossiles, ce qui fait qu'on arrive à les caractériser à la fin et à trouver des différences avec ceux d'avant. Pour Homo sapiens, on a la particularité finalement d'un registre fossile très partiel. En Afrique, entre 200 000 ans et 50 000 ans, c'est même pas une demi-douzaine de fossiles à peu près bien conservés. Ce qui fait que là, ce nouveau point à 300 000 ans, il documente cette ancienneté, il montre que le registre est encore extrêmement partiel et qu'il reste tout à découvrir pour comprendre le détail. Mais ça commence à nous donner des indications sur comment imaginer le début de notre espèce, les premiers caractères qui émergent et les liens qu'on peut faire avec les espèces encore plus anciennes. La limite, c'est que justement, on a un point et deux fossiles et que c'est encore très restreint pour comparer avec tout le monde qui est plus ancien. Et donc, il y a encore tout un débat autour de l'étude des fossiles connus sur ces périodes anciennes et les fossiles contemporains partout ailleurs pour comprendre les mécanismes d'apparition d'Homo sapiens.
C'est ça, les mécanismes d'apparition d'Homo sapiens. On le rappelle, sur le continent africain, hein, toutes les espèces humaines et différentes espèces qui ont cohabité à un moment sont issues du continent africain. Isabelle Crèvecœur, est-ce que ça vous apporte aussi des éléments pour mieux comprendre quoi, une sorte d'incroyable, certainement, diversité d'Homo sapiens sur le continent africain et donc de ses descendants qui évoluaient en même temps que Néandertal en Europe ou en Asie?
Oui, tout à fait. Et c'est essentiel pour essayer de comprendre justement cette diversité qui est toujours présente très, très tardivement, en fait, en Afrique. Donc, cette idée d'homogénéisation, on va dire, à partir de 100 000 ans, on aurait en Afrique Homo sapiens qui présenterait, voilà, tous les traits typiques et qui serait complètement homogène sur tout le continent. En fait, on se rend compte au fur et à mesure des découvertes que ce n'est pas le cas, qu'il y a une très très grande diversité et que en plus de la diversité qu'il y a actuellement, il faut imaginer une diversité passée peut-être encore plus grande et des lignées entières d'Homo sapiens qui ont probablement disparu et qui ne sont peut-être même pas du tout à l'origine des populations actuelles. Et donc c'est en découvrant et en étudiant les fossiles plus récents qu'on se rend compte de cette diversité et que ça pose énormément de questions pour définir même notre espèce au niveau biologique, phénotypique.
Et justement, ces Homo sapiens, ces représentants en Afrique d'Homo sapiens contemporains, hein, de Néandertal, est-ce qu'on a une idée? Est-ce que vous avez une idée de la tête qu'ils avaient, de l'air qu'ils avaient? À quoi ils ressemblaient? Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on en est vraiment au début de ces recherches?
Mais comme le disait Antoine, hein, on compte les fossiles presque sur les doigts de deux mains maximum. Donc voilà, on a très peu de visages, très peu d'idées. On sait quand même qu'il y a des communautés de robustesse, des individus quand même qui présentent encore des traits assez robustes pour beaucoup. Et que finalement, l'homogénéisation crânio-faciale qu'on observe sur les populations actuelles, c'est quelque chose qui va arriver, qui se voit assez tard. Tardivement en Afrique, qui a pas plus de 10 000 ans, on va dire, pour ce qui est documenté.
Alors aujourd'hui, hein, on le rappelle, nous sommes tous des Homo sapiens, partout sur le globe. Certains d'entre nous, du côté de l'Europe et de l'Asie, ont bien quelque chose de néandertal, hein, quelques gènes en tout cas. Ça aussi s'est prouvé et ça métisse un peu plus notre si diverse humanité, capable de tout, même de chanter avec les loups. Ça, c'est un groupe de rock musette français qui lui aussi s'est intéressé à Néandertal en VO sur RFI.
Je chasse le rhino à long poil, je lui fais la peau. Et aussi l'ours brun, faut dire que je n'ai peur de rien. J'ai une grosse massue, avec ça je leur tape dessus, car j'ai toujours faim. Je suis l'homme des cavernes, je vis à l'aube des temps.
Avec les loups sur RFI autour de la question quelle nouvelle de Néandertal et de ses contemporains en Afrique. Nous sommes en compagnie des paléontologues Isabelle Crèvecoeur et Antoine Balzo. Nous n'échappons évidemment pas au cliché sur Néandertal avec les loups, même si il parle aussi d'enterrer Néandertal et même si, comme vous venez de le démontrer scientifiquement, Antoine Balzo, Néandertal enterrait ses morts. Plus de doute sur l'inhumation volontaire dont d'un enfant néandertalien sur le site de la Ferracie en Dordogne il y a plus de 41 000 ans. Vous nous décrivez cette tombe, enfin tous les ossements que vous avez, on l'a raconté, une espèce de chasse au trésor récupéré, retrouvé pour prouver que c'était bien une tombe néandertalienne. Vous nous la décrivez.
Alors on n'a pas encore tous les détails. Ce qui était important pour nous, c'était de montrer l'intentionnalité du geste. Finalement, le fait que Néandertal enterrait ses morts, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps, mais qui n'était pas démontré, dans le sens où des squelettes avaient été trouvés il y a plus d'un siècle. Et certains nous disaient, tant qu'archéologiquement, vous ne pouvez pas nous démontrer qu'il y a eu enfouissement, on n'est pas certain que c'est l'homme qui a fait ça. Et là, c'est l'intérêt de ce travail-là, c'est que justement, on a retrouvé cet enfant dans une couche où il n'y avait rien d'autre. Une couche géologique qui était vide, qui s'est déposée avant que les hommes de Néandertal arrivent dans le site. Puis ils sont arrivés, ils ont vécu, on voit plein d'objets archéologiques sur la surface, et ils ont enterré cet enfant en creusant un trou, en y mettant l'enfant. Des objets ont été associés, puis ils ont renfermé le trou, et par chance, on a trouvé très longtemps après l'enfant. Donc on démontre que c'est intentionnel. Ce qui nous reste encore à faire, c'est travailler autour du sens. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus dur de trouver des données scientifiques qui permettent de discuter du pourquoi. On montre le comment, on va réfléchir au pourquoi en étudiant tous les objets associés à l'enfant. Il y en a pas
pourquoi,
beaucoup, mais
s'il y avait un rite, un rituel, si c'était coutumier, si c'est ça que vous cherchez.
En fait, le grand débat en préhistoire autour des sépultures néandertaliennes et pourquoi certains étaient encore extrêmement réticents, c'est que justement, quand on parle de sépulture, nous pensons tout de suite à la signification, au sens que l'on met derrière.
Bien sûr.
Et ça, c'est la même chose pour les Néandertaliens. Assez vite, il y a eu des réflexions autour de leur comportement, de leur psychologie. Et justement, quand on voit la variation de comportement qu'il peut y avoir chez les hommes aujourd'hui, on voit bien que la relation à la mort est très, très compliquée. Et là, on va poursuivre ces travaux-là pour essayer de mieux saisir justement ce qu'ils pouvaient avoir derrière la tête en faisant ce genre d'acte d'enterrer un enfant. Ça va être sûrement compliqué et c'est forcément plus une part d'interprétation que le travail qu'on a pu faire là qui est scientifique, mais c'est aussi extrêmement passionnant à propos de leurs idées.
C'est ça, de leurs idées, en sachant, comme vous l'avez dit aussi, que les Néandertaliens, c'est énorme. Il y a peut-être des groupes qui avaient peut-être certaines... Enfin, c'est pas l'homme de Néandertal, ce sont tous les Néandertaliens qui avaient certainement des rites différents. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que Néandertal n'était pas du tout une brute épaisse. Probablement, il y avait un langage pour faire des choses pareilles. Probablement une culture, des rites, on ne sait pas. Moi, je dis probablement. En tout cas, Néandertal, on sait aussi qu'il fréquentait les grottes et le monde souterrain. Ça, c'est une autre découverte marquante sur Néandertal, menée par une équipe de chercheurs franco-belges dans la grotte de Bruniquel. C'est dans le Tarn-et-Garonne, où ils ont découvert la plus ancienne construction humaine, une structure de près de 400 stalagmites en forme circulaire, donc c'est pas naturel, qui n'ont pu être agencés que par des hommes. Néandertal fréquentait donc les grottes il y a au moins 176 000 ans. C'est énorme. Datation effectuée par Jacques Jaubert, archéologue et professeur de préhistoire à l'Université de Bordeaux. Notre reporter préhistorique, Charlie Dupiot, l'avait interrogé sur son incroyable découverte et datation qu'il venait de réaliser. On écoute Jacques Jaubert et vous réagirez ensuite.
Très honnêtement, c'est une surprise que Néandertal se soit approprié le monde souterrain. Donc forcément, ça nous rend ces hommes-là encore un petit peu plus proches de nous. Les sociétés néandertaliennes sont de mieux en mieux connues. On les sait un petit peu plus complexes et sophistiquées qu'on ne les percevait il y a quelques décennies. On sait qu'ils ont un niveau technique, cognitif, culturel, proches de leurs contemporains d'Afrique, les premiers hommes modernes, mais on n'avait pas du tout documenté jusqu'à présent une fréquentation du monde souterrain. Ça suppose une capacité à s'éclairer, à maintenir cet éclairage, à l'entretenir, et puis aussi à construire ces fameuses structures qui ont été décrites dans la grotte de Bruniquel. Mais à Bruniquel, on est à 175, 176 000 ans avant le présent. Donc on a une forme extrêmement précoce de cette appropriation du monde souterrain. Je voudrais revenir sur un élément. Ces gens-là ont quand même, à un moment donné, déplacé plus de 2 tonnes 100, 2 tonnes 300, d'après nos calculs, de matériaux.
Des stalagmites.
Oui, uniquement des stalagmites ou des éléments de plancher stalagmitique. On est très souvent dans un domaine qui est celui de l'immatériel, du symbolique, d'une appropriation qui est non alimentaire, non fonctionnelle, non technique. On constate de plus en plus que, de manière disjointe et déconnectée, et visiblement sans relation, les Néandertaliens en Europe et les premiers hommes modernes en Afrique ont investi par petites touches, progressivement, mais pas exactement en même temps, ce qu'on appelle des éléments de modernité. Ils ont pratiqué les premiers débitages laminaires, ils ont pour la première fois emmanché des pointes de lance, utilisé des colorants, récupéré des coquillages, pratiqué des sépultures. Et donc maintenant, on a aussi l'appropriation du monde souterrain. Et là, cette fois-ci, c'est Néandertal européen qui est un petit peu en avance sur son voisin africain.
Néandertal européen, à ce moment-là, était un peu en avant sur ses contemporains africains. Que vous inspire cet éclairage de Jacques Jaubert, Isabelle Crèvecœur ?
C'est une évidence à partir des données dont on dispose actuellement. Il n'y a pas de traces, en tout cas pour Homo sapiens, de ce type de comportement en Afrique à cette période-là. Les plus anciens traces de comportements symboliques, on va les observer vers 120, 100 000 ans en Afrique. Voilà, ça peut être des gravures, ça peut être différents types de comportements, même au niveau de l'ornementation. Et puis les plus anciennes sépultures, c'est dans une zone géographique qui n'est pas l'Afrique, qui est le sud-est asiatique, mais qui est vraiment tout proche de l'Afrique. Certainement des Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique aux alentours de 150, 120 000 ans. Et là où on a des sépultures qui sont documentées pour Homo sapiens. Mais voilà, on est après cette découverte de Bruniquel dans le temps.
Après cette découverte de Bruniquel dans le temps, on a bien compris, on est plus proche de nous. Vous avez parlé de différentes sorties d'Afrique, donc on sait qu'il y a eu différentes sorties d'Afrique autour de la question « Quelles nouvelles de Néandertal et de ses contemporains en Afrique ?» Mais je propose aussi une question à rebours, justement, à propos de ces sorties d'Afrique, soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
On sait qu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique, des humains donc, qui sont sortis d'Afrique pour aller en Europe ou en Asie, plusieurs fois, il y a 200 000 ans au moins et 60 000 ans, en tout cas la plus grosse, la dernière. Et est-ce qu'il y a eu le phénomène retour ? Est-ce qu'il y a déjà des Européens ou des Asiatiques qui sont venus pour aller en Afrique ?
Isabelle Crèvecœur, c'est peut-être à vous de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu des retours, puisqu'on parle de plusieurs sorties d'Afrique ?
Oui, alors il y a eu des retours qui sont documentés, notamment au niveau génétique, avec des indications de mélange liés à ces retours. Et c'est des retours qui sont plutôt tardifs, qui sont documentés vers la fin du Pléistocène, voire le début de l'Holocène. Donc c'est quelque chose qui est arrivé, effectivement, mais tardivement.
C'est aussi l'image qu'on a de ces déplacements-là. Il ne faut pas non plus les voir trop comme des points et des directions. C'est la limite. C'est vrai qu'on se base sur les données archéologiques qu'on a. Donc si on a quelques points et puis d'un seul coup un point ailleurs, on a tendance à imaginer qu'il y a une flèche, ce qui est dans l'absolu logique. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces flèches-là sont des groupes humains, des populations qui continuent à vivre. Et finalement, les déplacements, on les connaît peu. La continuité de ces déplacements. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, des données génétiques, des données archéologiques vont nous montrer qu'à certains moments, il y a des retours, des mouvements, des transmissions ou de gènes ou de cultures qui montrent qu'il y a eu en effet une orientation sur certains trajets. Mais il faut aussi imaginer que les populations humaines, elles se déplaçaient constamment à travers les mondes qui leur étaient accessibles. Et donc, il y avait régulièrement et en continu des migrations humaines, des contacts et des déplacements culturels. Et plus on s'approche dans le temps des périodes récentes, on le constate assez bien avec justement ces transmissions de culture en Europe, au paléolithique supérieur, jusqu'au centre de la Russie. On voit bien qu'il y a transmission d'objets, parfois transmission de gènes, enfin voilà, des déplacements qui ne sont pas juste des flèches et des directions, mais qui sont des mouvements multidirectionnels entre les hommes qui vivaient un peu partout.
Et qui ont du coup fait évoluer les hommes, que ce soit sur le continent africain, que ce soit ensuite en Europe, en Asie, qui ont fait évoluer les hommes. On se représente, hein, il y a quand même une époque où il y avait plusieurs espèces humaines sur Terre, avec des cultures différentes, avec du métissage aussi. On a un peu tendance, nous, à figer ça, à parler de montrer une flèche pour montrer une direction, à les mettre en classe, et Homo sapiens et Néandertal, mais il y a eu des métissages, il y a dû avoir des rencontres, et puis tous les Homo sapiens, j'imagine, n'étaient pas les mêmes. Enfin, est-ce que vous arrivez à vous représenter cette incroyable diversité et ces petits bouts de population, Isabelle?
Oui, 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 et je pense qu'il y a un mot supplémentaire qu'il faudrait rajouter, c'est oui. Le terme, c'est la dynamique en fait.
Ouais, ouais.
C'est voilà, c'est au-delà du fait qu'on n'a pas de flèche spécialement orientée, on a des pulsations, des dynamiques. Il faut imaginer quelque chose de très vivant qui va se contracter, qui va se répandre, qui va parfois s'arrêter tout simplement. Et moi, c'est comme ça que j'imagine ces groupes humains, à la fois Néandertal et à la fois en Afrique aussi, c'est-à-dire que au gré des contraintes climatiques, des contraintes, on va dire géographiques, environnementales, des contacts humains, eh bien, on va avoir ces groupes qui vont vivre et qui vont évoluer.
Audrey Balzo.
Oui, justement, par rapport aux autres espèces humaines, la paléogénétique a apporté des données presque à l'envers par rapport à cette idée-là et à cette approche-là. On a renseigné l'existence des Denisoviens. C'est pas encore bien ce que c'est d'un point de vue morphologique.
Donc de cette grâce autre population humaine à peu près en même temps que Néandertal, mais plus...
Et qu'Homo sapiens, c'est plutôt
sapiens,
en Asie.
Et plutôt en Asie,
donc,
c'est ça.
On en trouve des traces dans les gènes des hommes d'aujourd'hui en Asie du Sud-Est. On commence à en trouver des traces dans les gènes de fossiles en Asie centrale, en Russie, dans les sédiments. Mais finalement, on ne sait pas ni qui ils sont, ni où ils étaient. Ça reste encore complètement mystérieux, et dans l'espace et dans le temps. Et finalement, c'est la même chose pour toute cette région asiatique. Pour Néandertal, on n'est pas sûr de l'extension à l'est de Néandertal. Ou pour Homo sapiens, on ne sait pas jusqu'où nous étions. Et finalement, il y a encore tout ce flou archéologique, et des disciplines différentes nous donnent des petites informations, des petits éclairages différents qui nous montrent ça, qui nous montrent cette mobilité humaine, cette cohabitation par moment, que ces humanités si différentes se sont croisées, ont échangé des gènes. Et voilà, le mystère maintenant, c'est de penser qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient pour Denisova, et puis peut-être un jour d'essayer d'apprécier leur culture, leur comportement. Mais c'est vrai que c'est incroyable aujourd'hui, alors qu'on n'a plus qu'une espèce humaine, d'imaginer qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y avait ces trois humanités différentes qui cohabitaient.
J'avais envie de rebondir en disant qu'il y en avait peut-être encore une autre, parce que ces mêmes données génétiques, ce que Antoine décrit pour Denisova, ont aussi suggéré la présence de populations dites archaïques en Afrique, qui auraient elles-mêmes côtoyé les Homo sapiens et qui se seraient mélangées avec elles dans des périodes contemporaines des Néandertaliens, vers 40, 30 000 ans. Donc on pourrait imaginer même encore des espèces fossiles.
C'est ça, c'est qu'on pourrait découvrir des espèces fossiles, voilà. D'autres espèces, encore une autre humanité sur le continent africain, en même temps qu'Homo sapiens, que Néandertal, que Denisova. Enfin, c'est presque.
Les données
de
la
fin.
Génétique le suggèrent en tout cas.
Et au fond, toutes ces données de la génétique ou travaux en trois dimensions, etc., tout ce qui vient se rajouter au travail des archéologues, finalement, ça élargit complètement le champ de recherche, ça bouleverse complètement, mais en rajoutant de la richesse, en rajoutant la diversité, en rajoutant de l'inconnu encore. On peut plus penser linéaire, on peut plus penser, c'est buissonnant automatiquement.
Oui, et puis il faut aussi penser... collaboration par rapport à ces différentes approches.
Bien sûr.
Au final, on est tous en train de travailler sur la même chose, mais avec des prismes différents, des méthodes différentes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça, qu'au final, on ne devrait pas trouver des choses complètement différentes. On devrait illustrer, enrichir la même image. Et c'est vrai que quelle que soit l'approche, c'est tellement parcellaire le niveau d'information qu'on a. On n'aura jamais tous les fossiles biologiques, on n'aura jamais toutes les données génétiques. Il y a des biais, quelle que soit l'approche. Et la difficulté aujourd'hui, c'est aussi de mettre toutes ces approches ensemble pour faire des travaux qui nous permettent d'aller le plus loin possible et de mieux comprendre l'humanité du passé.
Sa dynamique, ses routes, quelles routes ont emprunté nos ancêtres ? Allez, on laisse tout ouvert et on continue de s'interroger sur nos diverses préhistoires de l'humanité au son d'une musique qui vous fait vibrer, Isabelle Crèvecœur et nous aussi d'ailleurs. Ce sont les guitares électriques de Tina Riwen, le blues du désert sur RFI. Sur RFI, merci pour ce choix Isabelle Crèvecœur. On en profite pour saluer tous nos auditeurs au Normalie, dans cette région troublée de Gao. Vous nous écoutez sur 92.1, nous restons en lien pour partager notre histoire, notre préhistoire commune. Donc en votre compagnie, Isabelle Crèvecœur et Antoine Balzo, autour de la question « Quelle nouvelle de Néandertal et de ses contemporains en Afrique ?» nous découvrons de nouveaux ancêtres communs, de nouveaux cousins. L'album photo de notre genre humain ne cesse de s'agrandir avec la dernière espèce humaine découverte sur l'île de Luzon, aux Philippines, par un de vos collègues, Florent Détroit, que l'on écoute tout de suite.
On pensait qu'on était un peu tout seul avec notre cousin Néandertal en Europe. Alors, cousin Néandertal, selon les périodes qu'on rapprochait très proche de nous, même espèce, avec très peu de différence, ou au contraire qu'on éloignait très l'un de nous, non, Néandertal, cette brute épaisse n'a rien à voir avec nous. Puis on a fait avec ça pendant pratiquement plus d'un siècle, en fait, jusqu'au moment où on a commencé à découvrir qu'il n'y a pas que du côté européen qu'il y avait eu des coexistences d'espèces avec notre propre espèce Homo sapiens. Et le développement des recherches en Asie orientale en particulier a permis de mettre au jour toute cette diversité assez incroyable. Donc Homo floresiensis, les hommes de Denisova, maintenant Homo lucenensis, d'hommes qui étaient contemporains d'Homo sapiens.
Il y a quand même un point commun à ce genre Homo. Nous sommes tous sortis d'Afrique et toutes ces espèces du genre Homo, enfin ces découvertes en Asie du Sud-Est ne changent rien au berceau africain.
Les berceaux africains restent africains, les sorties d'Afrique, et les berceaux africains. Jusqu'à preuve du contraire, avec même l'accumulation de toutes ces nouvelles espèces en Asie orientale, toutes ont une origine qui remonte à un moment ou à un autre à une sortie d'Afrique. Tout ce qu'on connaît que ce soit notre propre espèce, bien sûr, Homo sapiens, mais même si on remonte plus loin dans le temps, ça correspond à des sorties d'Afrique.
Antoine Balouza, c'est quand même une certitude, les sorties d'Afrique, tous les représentants de l'espèce humaine, où qu'ils soient, et même au moment où le globe en a compté près de 6, hein, espèces humaines différentes qui ont cohabité, sont toutes issues d'Afrique.
Oui, puisque les premiers représentants de cette grande famille humaine sont en Afrique. Forcément, tout ce qui en découle vient de cette région-là, mais il y a eu des histoires un petit peu différentes, avec des diversifications, des espèces qui vont se développer justement dans des régions différentes. Néandertal, c'est plutôt l'homme eurasiatique. Flores, Luzonensis, pour le moment, on les connaît qu'en Asie du Sud-Est, Erectus. Bon, il y a des discussions sur ce qu'on appelle Erectus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de fossiles en Asie. Il y a une distribution de l'humanité dans les différentes régions, avec des zones aussi de flou et de complexité en Afrique, où on a plein d'espèces. Donc on a ce berceau originel pour tout le monde, puis après, un arbre qui s'étoffe dans différentes régions, dans différentes zones, et puis une histoire qui se répète avec Homo sapiens, qui apparaît indiscutablement à nouveau en Afrique, puis qui s'étend à travers le reste du monde. Ça a été une longue histoire, compliquée, avec une première extension, probablement la disparition de ses premiers, un nouveau départ plus récent d'Afrique, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce cœur africain qui est l'origine, plusieurs fois, de cette diversité humaine.
Isabelle Crèvecœur, vous nous disiez qu'il y a peut-être eu des espèces d'Homo sapiens qui ont disparu sur le continent africain et qu'on ignore.
Alors, des lignées.
Des lignées, pardon.
C'est la même espèce,
ouais,
évidemment.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, c'est des travaux de génétique qui sont venus renforcer cette idée, et ça va un petit peu dans le sens de tout ce qui sort actuellement, cette idée d'un multirégionalisme africain avec des poules génétiques, populationnelles sur ce continent qu'il ne faut pas imaginer comme totalement homogène pendant toute une partie de la préhistoire. Des groupes humains, certaines lignées vont s'éteindre, d'autres vont se mélanger, d'autres vont prendre le dessus, remplacer certains groupes. Et c'est cette dynamique au sein du continent africain qui est extrêmement intéressante pour comprendre notre espèce et qui suggère que certaines lignées ont pu disparaître et ne seraient pas à l'origine des populations actuelles. D'où l'intérêt, évidemment, d'étudier ces fossiles pour comprendre la diversité passée de notre espèce.
Bah oui, c'est clair. Parce que ça soulève aussi alors, des questions métaphysiques que l'on connaît autour de Néandertal, mais qu'on peut soulever autour de ces autres lignées Homo sapiens en Afrique. Pourquoi ont-ils disparu? Et pourquoi ou comment, enfin, question peut-être insoluble, Homo sapiens aujourd'hui est sur toute la planète, et pourquoi pas les autres? Ça, c'est une question qui restera toujours en point d'interrogation. Ou c'est une question que vous posez aussi, Isabelle Crèvecœur?
Oui, bien sûr, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Je pense qu'il y a, pendant cette période de la préhistoire qui voit cette dynamique au sein du continent africain et à l'extérieur de ce continent africain, il faut quand même mettre en parallèle de ça des changements climatiques, des changements environnementaux qui sont assez marqués, assez forts et qui ont conditionné forcément, qui ont dû avoir un impact sur ces populations humaines. Et qui peuvent avoir été à certains moments des moteurs d'évolution, d'adaptation, que certaines populations ont pu générer ces moteurs et d'autres peut-être moins. Je ne dis pas que tout est lié à ça, mais en tout cas, ça fait partie des facteurs qui peuvent expliquer ce type d'évolution.
De quoi nous intéresser beaucoup aujourd'hui en période de changement climatique, qui ont aussi pu peut-être pousser des groupes d'hommes à bouger. Bon, je vous vois sourire, Antoine Balouza, il ne faut pas aller trop vite. Mais j'ai quand même envie de vous demander si cette fréquentation de tous ces hommes préhistoriques, moi je me souviens de vous avoir rencontré au muséum autour du moulage du crâne de Cro-Magnon, et je m'en souviens encore, c'était il y a plus de 10 ans, ça marque. Est-ce que ça change votre regard sur nos vies, les crises que nous traversons aujourd'hui?
Ça donne nécessairement une perspective différente, parce que justement l'exemple du réchauffement climatique est assez parlant. On est en train de discuter d'un réchauffement planétaire de 3 degrés sur les dizaines ou siècles d'années qui viennent. Ça nous paraît quelque chose qui est anecdotique. 3 degrés, on se dit, 3 degrés de plus l'été, il fait déjà chaud, il fera plus chaud, le ski, on en fera moins. En fait, ce qu'on a du mal à saisir, et ça, la préhistoire nous le montre, c'est que ces 3 degrés, en fait, c'est quelque chose d'important. C'est 3 degrés à l'échelle de la planète. Et 3 degrés à l'échelle de la planète, c'est normalement ce qui a lieu en presque 20 à 30 000 ans entre une période froide et une période chaude. L'ensemble de la planète se transforme. Entre une période très froide, il y a des zones où il fait très froid. L'Europe met des zones plus clémentes à ces moments-là. Et finalement, c'est un équilibre sur l'ensemble de la planète. Et si on regarde la différence de température moyenne entre une période froide et une période chaude, c'est autour de 3-4 degrés sur des dizaines de milliers d'années. Et ce qui fait que ces 3 degrés qu'on risque d'avoir dans un siècle, c'est une augmentation qui va se faire en 100 ans par rapport à une transformation qui met d'habitude 20 000 ans à se faire. Et c'est ça qui est à la fois parlant, et pourquoi c'est important d'étudier la préhistoire et de le dire, et de dire ça aux gens pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et de pourquoi des scientifiques, les climatologues disent on ne peut pas prévoir ce qui va se passer simplement parce qu'on va faire subir à la planète en 100 ans un changement qui met normalement 15 à 20 000 ans à se réaliser.
Philosophe, d'être préhistorien, Isabelle Crèvecœur, je vais vous laisser conclure là-dessus, mais est-ce que justement, vous aussi, ça change votre regard sur les crises que nous traversons et sur notre monde aujourd'hui, et ces 3 degrés en 100 ans qui risquent de bouleverser notre espèce humaine, hein ?
Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, je pense que voilà, c'est cette vision de mobilité des hommes sur ce continent finalement est le plus interpellant. Voilà, la Terre appartient à tout le monde et nos ancêtres en ont profité
et l'ont parcouru dans tous les sens et avaient le droit de la parcourir.
Exactement.
Merci infiniment, Isabelle Crèvecœur, d'avoir partagé avec nous en direct depuis l'Université de Bordeaux. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, pour partager vos recherches, parce que vous n'êtes pas très nombreux à travailler là-dessus, sur les contemporains Homo sapiens de Néandertal sur le continent africain. Merci beaucoup, Antoine Balzo, d'avoir été en direct ici, en studio avec nous. Pareil, hein, vous revenez quand vous voulez partager les tombes des Néandertaliens, petit crâne que vous avez exploré, comme vous voulez. Bienvenue à vous, quand vous voulez.
Merci.
Autour de la question à réécouter tout l'été sur les bonnes ondes de RFI avec les rediffusions des meilleurs moments de l'année écoulée avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, où que vous soyez sur Terre à l'écoute de la Radio Mondiale. C'est bientôt l'heure de votre journal.